Alors nous allons continuer nos méditations dans l'évangile de Matthieu. Nous avions commencé, nous étions arrivés au chapitre 6. Nous avons commencé la semaine passée à parler du pardon. Nous avons parlé d'apprendre à pardonner comme Christ nous a pardonné. Et nous avons parlé surtout du pardon de Dieu, hein, avec ce texte de Matthieu 6, verset 14 à 15, que je vais relire. Dans Notre Père, il était dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et après avoir terminé cette prière de Notre Père, le Seigneur a ajouté, si vous pardonnez aux hommes vos fautes, Matthieu 6, 14, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et puis on va ajouter un second texte pour parler aujourd'hui du pardon aux autres, du pardon qu'on doit accorder aux autres, eh bien, il est tout trouvé. C'est en Matthieu, chapitre 18. C'est dans la logique de ce qui a été dit ici. Quelque temps après, au chapitre 18, Jésus aborde à nouveau ce thème. Ses disciples, il parle du pardon des péchés à partir du verset 15 de Matthieu 18. On va lire à partir du verset 21. Jésus donc vient de parler du pardon des péchés, si ton frère a péché, verset 15, et Pierre alors, il vient à Pierre une question. Pierre s'approcha du Seigneur, donc, et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Il est bien dans le sujet. « Jusqu'à sept fois ?» Et Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 70 fois, sept fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Et quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents, une somme donc considérable. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait pour payer en partie, d'ailleurs, sa dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui, dit « Seigneur, prends patience envers moi, je te paierai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, lui remit la dette. Et en sortant, ce serviteur, par contre, trouva un de ses compagnons qui lui devait seulement 100 deniers, disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon lui aussi se jeta à ses pieds et le supplia, « Prends patience envers moi, je te paierai. » Mais lui ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Et ses compagnons, voyant ce qui est arrivé, eh bien furent profondément attristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler le serviteur impitoyable, donc, et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Parole du Seigneur. Nous te louons pour ta parole qui est source de libération aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, le pardon. Donc, le pardon à notre prochain. Le pardon aux autres. Il semble qu'il y ait des choses dont on ne parle jamais. En tout cas, il semble qu'il y ait des choses dont on n'aime pas parler. Et le pardon est un sujet d'une grande importance pour nous tous, mais c'est un sujet délicat, parce qu'il est trop près de nous, quelque part, et c'est aussi un sujet souvent mal compris, peut-être aussi pour ça. Alors, tout commence simplement, dans ces textes que nous avons lus, par la question de Pierre. Nous commençons par la question de Pierre. Alors, Pierre, quand il pose sa question, a déjà, donc on est au chapitre 18, de Matthieu, comme j'ai dit, il a déjà entendu beaucoup de choses sur le pardon. En Matthieu 6, si on parle de nos chapitres actuels, Pierre avait déjà appris dans le Notre Père, pardonne-nous nos torts, nos dettes, remets-nous nos dettes, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts, comme nous remettons nous aussi les dettes des autres envers nous. Et Jésus avait ajouté, hein, donc ces paroles très fortes que j'ai lues aussi, hein, à la fin du Notre Père, si vous pardonnez aux hommes, votre Père vous pardonnera, si vous ne le faites pas, donc il ne le fera pas non plus. Hein. Donc il y avait déjà plein de choses qu'il savait. Hein. Il savait que notre pardon n'est ni la cause, ni la condition du pardon de Dieu. Hein. Le pardon de Dieu est toujours gratuit et libre. Mais notre pardon est la conséquence indispensable du pardon de Dieu. C'est comme ça qu'on aime dire les choses et ça correspond au texte. C'est-à-dire que si quelqu'un a vraiment compris à quel point sa faute est grave, à quel point Dieu est saint, si quelqu'un a vraiment compris que Dieu, malgré ça, lui a pardonné ses fautes, lui a remis ses dettes, eh bien, cette personne ne peut qu'en tirer les conséquences. Elle ne peut que tirer du pardon de Dieu la conséquence logique, c'est-à-dire notre pardon aux hommes. Et bien Dieu suspend son pardon, tout simplement, parce qu'il n'y a jamais eu de pardon, parce que la personne n'a jamais été pardonnée, parce qu'elle n'a jamais pris conscience de son péché et elle n'a jamais reçu le pardon gratuit de Dieu. Et tout cela le révèle. Alors, Pierre savait déjà tout ça, donc il avait une bonne base, comme chacun de nous, mais le plus dur, c'est de rentrer dans les questions pratiques. Et là, Jésus, en Matthieu 18, parle des questions pratiques, pardonner à son frère dans le cadre d'une relation, dans une communauté, dans une église, c'est là le contexte. Et Pierre, dès qu'il entend Jésus parler, si ton frère a péché, eh bien, une question émerge. Alors c'est certainement une question profonde à laquelle il pensait depuis longtemps. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Là on est dans le concret, dans le pragmatique, dans la vie courante. Alors la question de Pierre nous donne la suite de l'enseignement de Jésus sur comment résoudre les conflits entre frères. Alors il faut pardonner combien de fois? Ça commence par ça. Alors les rabbins de l'époque, les enseignants juifs de l'époque, dans le judaïsme, disaient qu'il ne fallait pardonner que 3 fois. 3 fois, mais pas 4, soi-disant. Donc on les imagine avec un petit carnet. Tac, 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 3 fois, c'est fini. Le compte est bon, comme à la télé. Et on ne revient plus là-dessus. On range le cahier, le carnet dans sa poche et on ne pardonne plus. À partir de ça, on est en règle. Voilà. Cette attitude-là. Et Pierre, lui, pensait être très généreux. Il est prêt à pardonner 7 fois. 7 fois, si on a tous été, comme on a tous été à l'école, on sait que 7, c'est 2 fois 3 plus 1. Donc, il double l'ordre des rabbins et ajoute en plus une mesure pour avoir donc bonne mesure. Et on suppose que Pierre se jugeait. Est certainement très spirituel, puisqu'il pardonnait jusqu'à 7 fois, 2 fois la règle plus 1. Il avait le sentiment d'avoir fait des progrès à l'école de Jésus par rapport au judaïsme. Il pensait donc 7 fois. 7 aussi, c'est le chiffre de la plénitude divine en général, c'est ce qu'on dit. Et on n'est pas loin de la vérité, 7. Dieu a créé le monde en 7 jours, enfin 6 jours, 7 jours, et 7e, il s'est reposé. Et c'est le signe de la perfection. Et pour Pierre, pardonner 7 fois, c'est pardonner comme Dieu. Oh, rien de moins. Alors on peut dire, pauvre Pierre, comme on pourrait dire, pauvre José, pauvre Intel, on doit souvent tomber notre piédestal dans ce domaine. Il a tout à apprendre, ce pauvre Pierre. Et nous aussi avec lui. C'est pour ça que ce dialogue, ce texte est dans la Bible. Alors, Jésus dit non à la question de Pierre. Pardonnerai jusqu'à 7 fois? Jésus dit non. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Ce n'est pas 77 fois, 7 fois. Quelqu'un m'a soutenu un jour que la Bible avait changé, qu'avant c'était 77 fois, 7 fois, et maintenant c'est 70 fois, 7 fois. J'ai dit non, ça a toujours été 70 fois, 7 fois. Mais oralement, comme on parle un peu vite, on peut l'entendre 77 fois cette fois. Hein. Mais c'était devenu une tradition dans la famille de cette personne. Peu importe, c'est déjà beaucoup, 70 fois cette fois, n'en rajoutons pas. Surtout si on comprend que c'est un chiffre symbolique. Hein. Jésus cherche à lui couper le souffle en multipliant son chiffre par 70, c'est-à-dire par 7, à nouveau le chiffre de la perfection, et puis par 10, le chiffre de la plénitude. Hein. Donc ça veut dire que le pardon doit être illimité. Il ne faut pas chercher plus loin. Hein. Le pardon doit, autant dire, donc, le pardon doit être illimité toujours et toujours à nouveau. Hein. 490 fois. Hein. C'est incroyable comme chiffre. Hein. Donc il nous faut une attitude de pardon hein, permanente envers ceux qui pêchent contre nous. Et Jésus lui dit en effet, hein, si, finalement il lui dit, si tu es en train de compter, tu n'es pas en train de pardonner. Hein. On ne peut pas faire les deux. Hein. Donc pardonne. Et donc Jésus raconte maintenant la parabole des deux débiteurs qu'on connaît, une des paraboles souvent connues, mais pas si souvent commentée que ça, parce qu'elle nous dérange aussi. Hein. Et pourtant, elle est tellement, c'est une des plus belles paraboles hein, de toutes les paraboles de Jésus. Donc une parabole, c'est vraiment une histoire, hein, donc, mais il faut chercher la pointe de l'histoire et l'appliquer à nos vies. Donc cette parabole, dans cette parabole, celui qui n'avait pas pitié de son compagnon est livré au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Et il conclut, Jésus conclut, voilà comment mon Père Céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Verset 35. Donc chaque fois que Pierre ou tout autre chrétien se demande s'il doit encore pardonner à son frère, il est invité à se souvenir de cette parabole et à prendre sa leçon à cœur, hein, au fond, du fond du cœur. Une parabole dans laquelle se trouvent trois personnages. D'abord, il y a le roi, ensuite le serviteur et ensuite le collègue du serviteur. Donc dans la parabole, le roi représente Dieu. De ce que nous voyons des actes du roi, nous pouvons apprendre comment Dieu agit avec nous. Ensuite, le serviteur, c'est nous. C'est vous et moi. Nous pouvons nous mettre à sa place facilement, à la place de ce serviteur. Peut-être que nous pouvons réfléchir à ce que nous aurions fait à la place du serviteur. Il semble que la parabole laisse sous-entendre que nous aurions fait la même chose que ce serviteur. Et puis il y a le collègue du serviteur, hein, qui représente les gens qui nous entourent et qui parfois sont tristes de notre comportement. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que la question de Pierre est posée au sujet de son frère. Pardonnerai-je à mon frère, ma sœur, bien sûr. Donc, nous parlons de l'Église, on va dire. Et c'est bien dans le contexte de Matthieu 18. Il a parlé de là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit-il, juste avant. Donc, le contexte de l'Église, le contexte des frères et sœurs en Christ. Il est intéressant que nous parlions de l'Église et aussi de la famille. Est-ce que nous nous sommes déjà rendus compte qu'il est plus difficile de pardonner à sa famille, de pardonner à des gens proches, donc de pardonner aux gens de l'Église, aux frères et sœurs de l'Église, qu'à tout le reste du monde entier? C'est tellement plus difficile. C'est parce que ceux qui nous sont si proches sont souvent ceux qui sont le plus capables de nous blesser, en profondeur, même si ce n'est pas toujours volontaire, c'est les blessures peuvent être les plus fortes. Alors, plongeons-nous dans l'histoire. Le roi veut demander des comptes à ses serviteurs. Il en a le droit, il en a le devoir, tôt ou tard. Ça peut prendre du temps, mais ça vient. Ses serviteurs ont des dettes, et le roi exige simplement qu'il les règle. Voilà la mise en scène simple de la parabole de Jésus. Et la Bible nous dit que nous avons, nous aussi, une dette à payer, c'est toujours bon à rappeler. Cette dette s'appelle le péché. Et c'est le mal que nous avons fait aux autres, et surtout à Dieu. Comme le roi de la parabole, Dieu va demander des comptes au peuple de la terre pour leur péché. mais cela se passera dans l'avenir. Hein, cela se passera au dernier jour, hein, au jugement dernier, quand Dieu jugera le monde. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens et qui portent encore la dette du péché, hein, au-dessus de leur tête, il y aura des conséquences. Et Romains 6, 23 nous dit que la conséquence du péché, hein, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, il y aura des comptes à rendre. Mais même aujourd'hui, hein, cette dette pend au-dessus de la tête donc, des non-croyants. Et elle augmente chaque jour, aussi longtemps qu'elle restera un pays. Et on n'est pas étonné, en comprenant ça, qu'un serviteur puisse devoir 2000 talents au roi. Hein. 10 000 talents au roi. La dette s'accumulait avec les années. Hein. Le temps n'arrange rien. Et ça s'accumule. Hein. 10 000 talents. Le talent représentait un certain point en argent ou en or qui variait d'un pays à l'autre. On n'est pas là pour parler en détail de ces choses. Mais on peut dire qu'un talent était égal au salaire qu'un homme pouvait gagner en une année. Bien. Le serviteur devait 10 000 talents au roi. Donc, payer une telle dette prendrait plus de 10 000 ans. Hein, 10 000 ans, hein, à la mesure de nos petites vies. Hein, et surtout, 10 000 ans si on ne faisait rien d'autre. Hein, si on ne faisait rien d'autre que payer la dette, c'est-à-dire sans manger, sans s'habiller, sans vivre. Hein, et on y arriverait peut-être en 10 000 ans. Il y a de l'espoir. Non, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Donc, nous voyons l'énormité de la dette. Et la réalité, c'est que c'est impossible à payer. Le chiffre donné par Jésus, hein, indique bien ça. Et c'est cela que Jésus veut que nous comprenions. Alors, nous pouvons essayer de payer la dette du péché par nous-mêmes. Hein. Nous pouvons dire, comme le serviteur, « Seigneur, aie patience envers moi. Je te paierai tout. » Ça, c'est une promesse d'ivrogne, hein, comme on dit en français. On ne peut pas payer une dette aussi énorme. Hein. Mais les gens essayent quand même de le faire. Hein. Nous essayons de le faire. Hein. Nous pourrions le faire. On essaye de faire du bien. On essaye d'être consciencieux au boulot, d'être gentil avec notre épouse, nos enfants, et ainsi de suite. Hein. Mais nous ne pouvons pas, hein, payer cette dette. Elle est trop grande, trop énorme, au-delà de ce que nous pouvons gérer. Et comme le serviteur, nous avons besoin de quelqu'un qui peut payer la dette, cette dette que nous ne pouvons pas payer. Donc, par son propre choix, le roi pardonne. La parabole illustre bien ça. Il n'est pas obligé de le faire. Il le fait de son propre choix. Il pardonne la dette, il remet la dette de son serviteur. Il l'annule. Alors j'imagine que le serviteur s'attendait à entendre des paroles de condamnation, il s'attendait à être vendu pour payer sa dette, ce qui est normal donc à l'époque, dans le contexte de l'époque, et au lieu de cela, il se trouve finalement libre, sa dette a été annulée, elle a été supprimée, elle a été effacée, il n'y a plus de dette. Alors la bonne nouvelle, hein, de l'évangile, c'est bien ça. Par son propre choix, Dieu fait en sorte que notre dette puisse être pardonnée. Et pour cela, c'est la suite de l'évangile qui nous dit, hein, parce qu'une parabole ne peut pas tout dire, eh bien, pour cela, il a envoyé son fils dans ce monde pour mourir, afin de payer la dette du péché, hein, afin de devenir une victime expiatoire, hein, pour notre péché, la dette que nous ne pouvions pas payer. Jésus, donc, l'a payée, Jésus l'a payée en vivant une vie d'abord parfaite, hein, et ensuite, en offrant ce sacrifice que Dieu a accepté pour payer la dette du péché accumulée par notre vie imparfaite. Donc sur la croix, tous nos méfaits ont été placés sur Jésus. Et il est devenu péché pour nous. Même s'il n'avait jamais péché lui-même. Toute notre dette a été mise sur son compte. Et Dieu l'a jugé, il a subi la mort que nous aurions dû subir. Et en échange, eh bien maintenant, nous pouvons avoir la droiture, hein, de la vertu du Christ, la justice du Christ placée sur notre compte à nous. On est riche. Et notre péché a été placé sur lui et sa justice a été placée sur notre compte. C'est le grand échange. C'est un échange fabuleux. Et donc nous pouvons être déclarés justes devant Dieu, et Dieu nous voit au travers de la justice du Christ, hein, qui est sur notre compte. Dieu nous offre en Jésus quelqu'un qui peut payer la dette que nous lui devions. Alors la bonne nouvelle, c'est que celui qui profite de cet échange, en plaçant sa foi en Jésus-Christ, devient un chrétien, hein, et sa vie commence à refléter ce qu'il a fait et ce qu'il a fait pour lui par Dieu. Alors c'est à ce point-là que l'histoire s'écarte, que l'histoire s'écarte du chemin auquel nous aurions dû nous attendre. Le serviteur a un collègue qui devait 100 deniers. 100 deniers égale environ le salaire de 100 jours de travail, dit-on. Donc c'est 30 000 fois moins que la dette. C'est cette disproportion, hein, qui importe dans cette parabole. C'est une somme conséquente, mais pas si énorme que ça, finalement. Cependant, le collègue ne peut pas payer la dette. Et donc, nous nous attendons à ce que le serviteur abandonne la dette à son collègue, bien sûr. Nous nous attendons à ce que le serviteur ait compassion de son collègue. Nous nous attendons à ce que le serviteur prenne patience envers son collègue, comme le roi a eu patience envers lui. Mais ce que nous trouvons, c'est le contraire. Il le saisit, l'étrangle en disant « Paie ce que tu me dois ». Il n'est pas très gentil avec son collègue. Il ne pardonne pas à son collègue. Et peu après, le collègue se trouve entre les mains des bourreaux jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Alors, là s'arrête la parabole, on va dire. Et elle débouche sur une conclusion simple et claire, celle du verset 35, qui est une mise en garde. Il faut bien voir que c'est une mise en garde, un avertissement à l'adresse de Pierre, de Jésus à l'adresse de Pierre, de ne jamais refuser le pardon à qui a péché contre lui. C'est une mise en garde dont nous avons aussi tous besoin, et c'est pour ça que c'est dans l'Évangile depuis 2000 ans. Donc, Jésus précise que notre pardon doit être sincère, doit être authentique, doit être cordial, on va dire, du fond du cœur, comme celui de notre Dieu qui nous fait vivre est sincère, authentique, du fond du cœur. Alors, quand quelqu'un nous blesse, il y a au moins deux façons de réagir qui sont très négatives. Tout d'abord, on peut dire « Oh, c'est pas grave ce que tu m'as fait, t'inquiète pas, c'est rien, pas de problème. » Mais on n'en pense pas moins, on bout de colère en nous-mêmes. Une autre réaction, c'est de dire « Non, cette fois, tu es allé trop loin, je ne te pardonne plus. » Et nous restons donc fâchés avec la personne qui nous a blessés. Dans les deux cas, ce qui se passe, c'est qu'une racine d'amertume pousse dans notre cœur et prend toute la place de notre cœur et nous dévore de l'intérieur, comme un cancer. Et cette racine étrangle notre joie, étrangle notre paix, et surtout, donc, ternit notre relation avec Dieu. Alors, note, c'est bien de notre relation avec Dieu dont il est question ici, parce que si nous ne pardonnons pas aux autres, bon, il est dit que Dieu ne nous pardonnera pas. Donc, il y aura un fossé entre lui et nous. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Avec ces paroles, Jésus donc conclut cette parabole. Alors c'est dur, c'est un avertissement. Et un avertissement, on n'aime pas. Et un avertissement, c'est toujours dur à entendre. Si je ne pardonne pas à mon frère de tout mon cœur, Dieu ne me pardonnera pas. Donc quand nous refusons de pardonner, nous refusons la bénédiction de Dieu. C'est ça qu'il faut retenir. Nous ne parlons pas ici de notre salut éternel. Nous ne cessons pas d'être enfants de Dieu. Il ne cesse pas de nous aimer. Mais il ne peut pas nous bénir pendant que nous gardons rancune contre notre frère. Et nous devenons, nous, misérables, malheureux. On élève un mur tout autour de nous, contre Dieu, contre les autres. Un mur qui va de plus en plus haut et qui nous enferme. Et c'est au risque qu'on ne puisse plus même dépasser ce mur un jour. Alors, on est vraiment dans de tristes draps. Notre refus de pardonner montre surtout que nous n'avons pas compris combien nous avons été pardonnés. Et donc, nous n'avons pas reçu la joie du pardon qui libère. Si je ne pardonne pas les péchés des autres, c'est parce que je n'ai pas compris combien mon péché est grave devant Dieu, qui est Dieu aussi, et combien j'ai été pardonné moi-même par lui, gratuitement. Et c'est là où se trouve le thème majeur de notre parabole. Il faut pardonner parce que nous avons été beaucoup pardonnés nous-mêmes. Nous n'avons pas le droit de garder notre amertume, notre rancune et notre colère contre notre frère parce que Dieu n'a pas gardé sa colère, qui elle était sainte et juste, contre nous. Le pardon vient de l'amour aussi. L'amour de Dieu pour nous, qui nous amène son pardon, et puis notre amour pour les autres qui doit nous amener le pardon des autres. Donc c'est ceci que le serviteur n'a pas compris et il a payé cher pour son manque de compréhension dans cette parabole. Alors il y a des questions. Il y a quand même des questions qui se posent. Et je crois qu'il y en a au moins deux. Il y en a une qui est encore plus pressante que les autres. C'est où se trouve la repentance dans cette histoire? Pour pardonner à quelqu'un, il faut qu'il soit repentant, n'est-ce pas? Alors oui, ça doit se passer comme ça normalement. Si la personne qui nous a blessés se repent, c'est parfait. C'est alors que nous pouvons rétablir une relation avec elle. Relation brisée, jusqu'à là. Nous pouvons laisser la blessure derrière nous et maintenant avancer ensemble vers une réconciliation profonde. Et nous pouvons laisser la plaie, pour envoyer notre image, se refermer. Vous savez que les plaies, c'est toujours pareil. Les enfants, quand ils voient une plaie, ils voudraient que ça se... Non. Et il faut laisser du temps à la plaie pour qu'elle se referme. Il ne faut pas regratter dessus tout de suite. C'est parfois ce qu'on fait. Donc, il faut laisser la blessure derrière et avancer ensemble, réconcilier. Entre chrétiens, ça ne se passe pas comme ça. Nous devrions reconnaître nos torts, nos erreurs, notre péché et nous réconcilier avec notre frère avant que cela n'aille trop loin. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Et la Bible est réaliste, même entre chrétiens et même entre membres d'une même famille. Alors que faire quand la personne devant nous ne se repent pas? Alors il faut avoir une attitude de pardon. Et abandonner déjà de notre côté notre colère, notre amertume et le désir de vengeance. Même si nous ne voyons pas, nous ne voyons pas pour l'instant une attitude de repentance chez l'autre. Nous sommes déjà libérés de quelque chose par cette attitude de pardon. De plus, nous pouvons dire que si Jésus a raconté cette parabole, c'est parce qu'il veut que nous nous examinions nous-mêmes, surtout. Pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Examinons notre attitude envers les autres. Bien sûr, on peut... Est-ce que l'autre a fait ce qu'il... Non. D'abord, pensez à vous. Examinez votre attitude envers les autres. Et donc, il y a beaucoup plus à dire encore, bien sûr, au sujet du pardon. On ne veut pas tout dire et surtout, on ne peut pas tout dire. Mais nous avons ici, dans cette parabole, une base pour prendre la décision d'avoir cette attitude de pardon en abandonnant la colère, l'amertume. La décision aussi de pardonner quand nous avons été blessés. Alors, il y a quatre choses que nous pouvons aussi dire à propos du pardon quand nous considérons ce sujet. Pardonner veut dire que nous n'avons plus quelque chose contre quelqu'un. Deuxièmement, pardonner veut dire aussi que nous abandonnons, comme on l'a dit, notre colère, notre amertume, sans nier le fait que nous avons été blessés. Les blessures prennent parfois du temps pour se guérir. Et nier ça, c'est passer à côté de la guérison. C'est idiot de dire « ce n'est rien, ce n'était rien ». Ben non, c'était quelque chose qui nous a blessés parfois profondément. Et le pardon admet ce fait. Il m'a blessé. Je vais engager une démarche de pardon malgré cette blessure. Mais on ne nie pas la réalité. Et c'est le premier pas vers la guérison. Et puis pardonner, aussi on peut dire, ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences. Il y aura peut-être des conséquences, je l'ai dit la fois passée, pour celui qui nous a blessés. Notre pardon ne l'absout pas de la responsabilité de ses actes. Mais nous, de notre côté, nous renonçons au droit de nous venger sur lui. Et puis enfin, pardonner veut dire que nous sommes reconnaissants de ce que nous avons été nous-mêmes pardonnés par Dieu. Dieu ne tient plus compte de notre péché, nous n'avons plus de compte à lui rendre, nous sommes profondément reconnaissants. Et c'est cette attitude de reconnaissance envers Dieu que le pardon ravive et qu'il met bien en évidence. Donc il est important de bien réfléchir à comment mettre cet enseignement en pratique aujourd'hui même. Il se peut, par exemple, aujourd'hui, que quelqu'un soit tellement blessé par le péché d'un autre qu'il ne se sent pas capable de pardonner. Il y a peut-être quelqu'un comme ça parmi nous. En fait, depuis longtemps, l'affaire traîne dans son cœur, mais il n'a jamais pardonné à l'autre. Et c'est maintenant le moment de demander l'aide de Dieu pour vraiment pardonner. Demandons au Seigneur, si nous sommes dans ce cas, qu'il nous donne même le désir de vouloir pardonner. Et c'est déjà par là que ça commence. Peut-être que nous gardons toujours de l'amertume et de la colère contre quelqu'un dans notre cœur. Et donc c'est maintenant le moment de confesser notre péché et encore une fois de demander l'aide de Dieu pour vraiment pardonner. Et si nous savons que quelqu'un a quelque chose contre nous, c'est maintenant devant Dieu le moment de penser, être réconcilié. Prenons la résolution en tout cas de mettre ces choses en ordre. Et si cela compte vraiment pour nous, nous le ferons. Alors dans le psaume 126, il est dit, c'est le psaume des montées, il est dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse ». C'est un contexte un peu différent, mais c'est vrai que la vie chrétienne, c'est souvent semer avec larmes, et il y a cette promesse, ils moissonneront avec allégresse, avec des chants d'allégresse. Alors, pardonner n'échappe pas à cette règle générale. Pardonner n'est pas facile. C'est comme semer avec larmes. Et puis, on a l'impression qu'on va perdre la semence qu'on jette à terre, qu'on jette pour rien. Et il y a toujours... c'est toujours une aventure de pardonner, un saut vers l'inconnu. Et c'est coûteux aussi. Mais si nous sommes obéissants à la parole de Dieu et que nous pardonnions à ceux qui nous ont offensés, nous serons bénis. C'est la bénédiction de Dieu. Ils moissonneront avec chant d'allégresse. Et c'est ça que nous voulons avoir. On peut avoir toutes sortes de problèmes dans la vie, des hauts et des bas, mais si on garde la bénédiction de Dieu, on a la plus grande richesse, qu'on puisse imaginer. Concluons, elle a tout compris. La croix du Christ démontre que le pardon ne se chiffre pas, ne se comptabilise pas. C'est là notre ferme assurance, notre espérance. Et puis le pardon, c'est la relation que Dieu établit entre lui et nous. Et c'est aussi la relation qu'il établit entre nous et les autres. En nous disant « Je te pardonne », en même temps, Dieu nous dit « Va maintenant et pardonne à ton tour ». C'est les deux faces d'une même pièce. En nous aimant, il nous demande d'aimer. En nous graciant, il nous demande de gracier, etc. Et la grâce de Dieu en Jésus-Christ est à l'œuvre quand nous sommes pardonnés, quand nous recevons le pardon. Mais la grâce de Dieu en Jésus-Christ est aussi à l'œuvre quand nous pardonnons. La même grâce. Donc, recevons le pardon de Dieu. Laissons-nous libérer par le pardon de Dieu. Devenons à notre tour des effaceurs de tête, des libérateurs. Amen.